Alors ça, c'est notre anomalie à 16h...
Arrêtez de nous fasciner avec vos anomalies. De quoi s'agit-il?
C'est un astéroïde.
Quelle est sa taille?
D'après nos premières estimations, il aurait 97...
Il est grand comme le Texas, monsieur le président.
C'est cela.
Est-ce que vous avez une idée précise du risque?
Le risque?
Il est total, monsieur. C'est ce que nous appelons un exterminateur. La fin de l'humanité. Où qu'il vienne à s'écraser, rien n'y survivra, même pas une bactérie.
Voilà comment on fait la transition entre les astéroïdes et les bactéries. Ben oui, évidemment, Fanny Boyon pense à tout. Pour parler donc à la une de la science aujourd'hui avec cet extrait d'Armageddon de cette étude d'Héloïse Rambert où on évoque les risques justement autour des astéroïdes. Et ça pourrait d'ailleurs inspirer d'autres réalisateurs de blockbusters hollywoodiens. Hein.
Oui, il y a de quoi Mathieu. En fait, c'est une étude dans Science qui nous l'apprend alors qu'on pensait que depuis 4 milliards d'années, le flux d'impact d'astéroïdes dans le système solaire était à peu près constant. Il aurait en fait doublé, voire triplé depuis 290 millions d'années. Alors, sur le papier, c'est un peu préoccupant, mais on va en parler tout de suite avec l'astrophysicien Patrick Michel qui est avec nous au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes astrophysicien, comme je le disais, et aussi directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors, comment est-ce que les scientifiques se sont aperçus d'une telle augmentation? Parce que nous, de notre côté, a priori, on n'a rien remarqué de particulier.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui. Oui, alors heureusement d'ailleurs. Non, en fait, c'est parce qu'ils ont analysé les données d'une mission qui a observé la Lune, la mission LRO de la NASA, et ils ont compté les cratères plus grands que 10 km de diamètre sur la Lune, ainsi que leur âge qu'ils ont pu estimer, en sachant qu'en fait, les impacteurs qui impactent la Lune sont la même population que ceux qui impactent la Terre. Mmh. Et ils ont pu ainsi constater que depuis 290 millions d'années, eh bien, il y a une augmentation du taux d'impact d'un facteur 2 à 3 par rapport à ce qu'il était il y a plus de 290 millions d'années.
Alors, comment on explique une telle augmentation? Il y a une hypothèse qui fait consensus?
Oui, alors disons que déjà les astéroïdes viennent pour la plupart d'une région qui s'appelle la ceinture principale, qui est entre Mars et Jupiter, hein, c'est un espèce d'anneau dans lequel il y a des astéroïdes. Ils sont nombreux, ils rentrent en collision les uns avec les autres, et de temps en temps, quand une collision se produit, ça émet un grand nombre de fragments qui peuvent être placés sur des zones très instables qui les envoient vers la Terre. Alors ils ne sont pas tous envoyés immédiatement vers la Terre, ça met quelques millions d'années, mais quand une telle collision se produit, eh bien ça émet un nombre de fragments plus grand que ce qui vient d'habitude vers la Terre et ça peut éventuellement augmenter le taux d'impact de ce facteur 2 ou 3. Et maintenant, on cherche d'ailleurs le coupable dans la ceinture.
Donc là, il y a une sorte de pic, quoi. Ça va monter et puis ça va revenir à la normale rapidement.
Alors c'est ce qu'on pense, oui, parce que avant 290 millions d'années, le taux d'impact était plus faible. Il était en effet à peu près constant jusqu'à à peu près 650 millions d'années. On a remonté à peu près à ça. Après, on n'en voit plus, notamment sur la Terre. On pense que ça, ce sont des phénomènes d'érosion qui les font disparaître. Mais effectivement, ça peut expliquer. Et d'ailleurs, de façon régulière, hein, il y a des collisions dans la ceinture qui créent ce genre de ce qu'on appelle famille d'astéroïdes, qui sont des groupes d'astéroïdes qui partagent les mêmes positions et la même composition. Et dont on pense qu'il vient d'un corps plus grand qui a été détruit. On a recensé une vingtaine de ces familles qui sont toutes âgées de plus de... Ça peut aller de très jeune à très vieille. Et donc, à chaque fois qu'une de ces familles est produite, eh bien, on peut imaginer qu'on a une petite augmentation temporaire, enfin, sur des échelles de temps géologiques, donc contribue à augmenter le taux d'impact dans le système solaire interne.
Et est-ce que ces nouvelles données, donc cette augmentation d'impact, ça pourrait expliquer des grands événements terrestres comme la disparition d'espèces? Je pense aux dinosaures, par exemple.
Alors, les dinosaures, c'est l'impact d'un objet de 10 km de diamètre, dont le cratère est au Mexique, au Yucatan, qui fait 180 km. Il est enfoui. Alors, je ne sais pas si ça peut expliquer vraiment le doublement peut expliquer ça. On sait que ce genre d'impact se produit à peu près tous les 100 millions d'années, c'est-à-dire des impacts d'astéroïdes aussi gros que 10 km qui peuvent faire éteindre des espèces. Et on a d'ailleurs recensé plusieurs disparitions d'espèces. Alors, faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes dues à des astéroïdes, mais même sans ce doublement des impacts, on peut très bien imaginer, parce qu'on a quand même beaucoup d'astéroïdes, que de gros astéroïdes, tous les quelques 100 millions d'années, tombent sur Terre et y contribuent. Donc je dirais que c'est pas nécessairement lié.
On peut quantifier maintenant le risque de prendre un astéroïde sur la tête avec ces nouvelles données ou pas? Est-ce que ça reste très 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 peu probable?
Oui, alors ça dépend de la taille à laquelle on parle, hein, de laquelle on parle. Donc pour des objets très petits, par exemple, ils tombent 10 000 à 100 000 tonnes de matériaux par an sur Terre, mais bien sûr sous forme de poussière. On a de temps en temps des événements un peu plus violents. On a eu l'explosion d'un météore au-dessus de Chelyabinsk en Russie en 2013 avec une énergie équivalente à 35 bombes d'Hiroshima dans l'atmosphère, et ça a pulvérisé ça fait des débris de glace sur la ville et ça fait 1000 blessés, mais ça reste très 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 marginal, parce qu'en fait ce genre d'impact se produit tous les siècles, des objets d'une trentaine de mètres de diamètre, et pourtant c'est la première fois que ça se passait sur une zone habitée. Ce qui nous préoccupe plus, ce sont les objets qui font plus grand que 100 mètres, qui sont plus grands que 100 mètres, parce que là, peu importe où ils tombent, ça fera des dégâts qui atteindront des zones habitées, mais les fréquences d'impact sont d'une dizaine de milliers d'années. Donc c'est quand même le risque naturel le moins probable, heureusement, par rapport à tous les autres risques auxquels on a affaire sur Terre. Et puis il a un avantage, c'est qu'en fait, on pourrait le prévenir et voire même l'éviter avec des moyens qui sont raisonnables, qu'on connaît, mais qu'il suffit de mettre en place. Donc c'est un message rassurant.
Mais vous pensez à quoi alors en l'occurrence? C'est quoi? Parce que moi je pensais à Armageddon tout de suite, mais vous pensez à quoi pour lutter contre un astéroïde?
Bruce Willis coûte trop cher.
Oui, c'est donc, ça.
Hein. Puis on va pas les sacrifier quand même. Donc on essaie d'éviter de sacrifier des êtres humains pour en sauver d'autres. Donc il y a deux choses à faire. Il faut faire l'inventaire de ces objets, et ça on peut le faire depuis l'espace. D'ailleurs, un projet de la NASA appelé NEOCAM est en train d'étudier ça. Donc on envoie un satellite, on fait l'inventaire à peu près en 5 ans de tous les objets plus grands que 100 mètres. Mm-hmm. Donc avec ça, déjà on peut prédire est-ce qu'on va y avoir un impact dans un futur proche. Ensuite, il faut faire un test de déviation pour s'assurer qu'on a une technique pour dévier l'astéroïde. Et il se trouve qu'on est en train de travailler là-dessus. Je suis même responsable de la composante européenne étudiée à l'Agence spatiale européenne d'un projet avec la NASA qui consiste à envoyer deux satellites, un de la NASA qui taperait sur un astéroïde et l'autre de l'Agence spatiale européenne qui observerait la conséquence de cet impact et vérifierait si ça a bien produit une déviation. Donc en gros, on utilise un projectile, on tape sur un objet, toi là que je m'y mette, et il suffit de le déplacer un tout petit peu pour qu'il rate la Terre si on le fait bien à l'avance. Alors ça marche sur le papier, mais il faut le tester. Et si on fait ces deux choses-là, l'inventaire des objets et on a un test de déviation effectué, eh ben voilà, un risque qui était déjà pas très grand, on pourra écarter, et en plus on apprendra beaucoup de choses sur ces objets. Donc il faut se rappeler, les astéroïdes, que ce sont les pierres de nos origines, hein, ce sont les briques, les restes des briques qui ont formé les planètes, mais qui, contrairement aux planètes, ont gardé la mémoire de la composition du système solaire initial. Et elles n'ont pas de bactéries, les astéroïdes, sur eux, mais par contre, ils ont pu contribuer à apporter tous les éléments qui ont favorisé l'émergence de la vie sur Terre. Donc, ils ont aussi plein d'aspects positifs.
Merci pour cette transition habile, Patrick Michel, puisqu'on va parler bactéries dans un instant. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et directeur de recherche au CNRS, à cet observatoire de la Côte d'Azur. Merci beaucoup à vous. Héloïse, à demain.
À demain, Mathieu.
Et dans le réseau de l'actualité scientifique en Chine, une deuxième femme enceinte à la suite de l'expérimentation du chercheur qui prétend avoir donné naissance au premier bébé génétiquement modifié. Une enquête menée par le gouvernement provincial du Guangdong au sud du pays a confirmé l'existence de cette femme et sa grossesse. Les autorités chinoises ont annoncé que le scientifique allait être visé par une enquête policière. Il avait provoqué un tollé, vous en souvenez, dans la communauté scientifique en novembre dernier, en annonçant la naissance de deux jumelles dont l'ADN a été modifié pour les rendre résistantes au VIH. Plus de la moitié des espèces de café sauvage menacées d'extinction, c'est ce que nous explique une étude des jardins botaniques royaux de Kew à Londres, menée dans plusieurs forêts africaines. Et sur 124 espèces de café sauvage, 75 sont menacées par la déforestation, le réchauffement climatique et la propagation de maladies et d'espèces nuisibles. La plupart des cafés sauvages ne sont pas buvables, mais ils sont utilisés pour rendre la culture de café durable. Ils peuvent renfermer des gènes utiles pour développer des plants de café résistants aux évolutions de leur environnement. Et puis Juno, la sonde de la NASA, a capturé une nouvelle image de Jupiter alors qu'elle effectuait un survol rapproché de la planète géante à environ 35 000 km au-dessus de ses nuages. On peut y voir la remarquable grande tache rouge qui est en fait un anticyclone géant de plus de 16 000 km de diamètre, mais aussi une autre tempête massive deux fois plus petite appelée Oval Bea. Juno avait déjà pris un cliché d'Oval Bea il y a un an. Les scientifiques ont remarqué qu'elle s'était transformée ces derniers mois, passant d'une couleur rougeâtre à un blanc plus uniforme.